Il y a des auteurs qui aiment venir nous voir et nous aimons les recevoir. Suivre un auteur est toujours intéressant. L'impression de retrouver des univers déjà approchés par l'écrivain, ses thèmes de prédilection et sa façon de nous faire entrer dans ses histoires. André Gardy est de cela. Bonjour André Gardy.
Bonjour Guylaine.
Alors André Gardy, vous venez aujourd'hui pour votre dernier roman, Les Lys Blancs de Clara, qui sort aux éditions Chum, basé à Avignon et distribué par Hachette. Alors, changement d'éditeur pour ce nouveau titre ?
Oui, ça arrive. C'est qu'en réalité, c'est un livre qui a eu un cheminement un petit peu délicat, parce que je crois qu'il est assez différent de ce que j'ai écrit jusqu'à présent. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a même aucune action. Donc, a priori, pour maintenir l'intérêt du lecteur, il manque cet ingrédient de base. Cela étant, j'ai essayé de le remplacer par autre chose. Et en particulier, par une sorte de dévoilement progressif.
On va voir ça.
Voilà, je pense qu'on va en parler un peu plus longuement. Donc, c'est un texte, je crois, qui est exigeant à l'égard du lecteur. Je crois qu'il demande de la part du lecteur une attention relativement continue. C'est-à-dire, ce n'est pas un livre que je peux ouvrir pendant une demi-heure, je le laisse pendant une journée, je le reprends une heure le lendemain. Je crois que ça s'accommode assez mal de ce type de lecture, qui par ailleurs est la lecture bien souvent habituelle. Voilà. Je pense que ça, c'est un obstacle éditorial. Ce qui fait que l'éditeur Chum a un avantage puisque c'est une jeune maison d'édition qui a un certain nombre d'exigences littéraires et qui n'a pas, même si à un moment donné il s'est posé la question justement de l'intérêt romanesque du livre, a préféré être sensible, disons, à ce qui était la recherche au niveau de l'écriture, de l'interrogation, qui est ce qui court tout au long de ce livre.
Alors, André Gardy, j'aimerais rappeler que vous avez été professeur de lettres, professeur d'études cinématographiques à l'Université Lumière à Lyon 2.
Oui.
Vous êtes aujourd'hui un auteur prolifique. Et le roman Les Lys Blancs de Clara est votre 9e roman. Vous
prolifique, quand même.
Si on regarde votre liste bibliographique, ça fait une page et demie quand même.
Oui, mais parce qu'il y a les ouvrages sur le cinéma.
Ah oui,
tout compris.
Neuvième roman, voilà. Et les autres ouvrages, voilà. En effet, sont des essais.
Des ouvrages à caractère universitaire ou pédagogique.
Alors, ce roman, c'est un roman qui se déroule dans le milieu médical. Alors, on quitte la garrigue,
complètement.
Peut-être même le Gard, parce qu'on ne sait pas. Vous évoquez le Gros du Roi, donc on est quand même dans la région.
Je ne quitte pas complètement le Gard, puisqu'effectivement, il y a le Gros du Roi. Je ne quitte pas non plus complètement le Midi, puisque l'Ardèche est évoquée. Mais l'essentiel se passe à Lyon.
Voilà, à Lyon, donc dans un hôpital, dans le milieu médical. C'est la première fois, ça.
Ah oui, oui, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait. En réalité, j'avais envie de, ayant habité, travaillé pendant plusieurs années à Lyon et ayant particulièrement aimé cette ville, j'avais envie de me replonger un petit peu par l'imagination dans cette ville, d'une certaine manière, essayer de lui rendre hommage.
Oui.
Voilà. Donc je crois que ça, c'était une des motivations pour situer l'action de ce livre à Lyon, parce qu'elle aurait pu se situer ailleurs.
Dans un CHU de Montpellier, par exemple.
Voilà.
Vous auriez pu.
J'aurais pu.
Alors, vous l'avez dit brièvement en introduction de cette émission, peu de personnages. Jean au centre, Florence, la psychologue de l'hôpital, Maria, une aide-soignante, Sylvia, la logeuse de Jean, le fils de Jean, mais alors vraiment quelque part. Et quant à Clara, qui est mentionnée dans le titre, c'est la grande absente.
C'est la grande absente, effectivement, mais c'est la grande absente et en même temps, du fait même de son absence, c'est ce qui va produire le roman, qui va lancer le...
Elle reste présente, mais elle n'est pas là.
Voilà. Et de plus, pour le lecteur, on ne sait pas. Son existence n'apparaît que bien après la moitié du livre.
Absolument. C'est la grande inconnue.
Voilà, c'est la grande inconnue. C'est l'absence. C'est d'abord l'inconnue. Ensuite, lorsqu'on entend parler d'elle, c'est l'absente. Et c'est justement parce que c'est l'absente aussi pour Jean Robin, le héros,
oui,
que le roman a pu naître.
Voilà. Alors, justement, Jean Robin, vous avez dit son nom, c'est qui est-il finalement? On sait que c'est un bel homme, il a quelque chose de Gérard Philippe, vous aimez bien ses références cinématographiques.
Oui, c'est la moindre des choses.
Mais finalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cet homme sans évidemment tout dire? Mais voilà, il débarque là, dans cet hôpital.
Alors effectivement, quand il débarque à l'hôpital et dans le livre, puisque ça s'ouvre là-dessus, on ne sait rien. On ne sait rien, sinon qu'il a été ramassé sur la voie publique. Disons, il a tout l'air d'un clodo, avec ses cheveux longs, sa barbe, etc. Et on en apprend un tout petit peu plus parce que on finit parce qu'il n'a pas le papier aussi quand il arrive.
C'est ça, on
à
connaît
l'hôpital.
Même pas son nom.
On ne sait rien.
L'hôpital ne connaît
rien.
Pas son nom.
On finit par retrouver parce qu'on sait qui a appelé. C'est sa logeuse à l'hôtel et donc la logeuse va.
Sylvia donc.
Voilà, Sylvia va commencer de donner quelques informations, mais elle reste extrêmement maigre. Elle-même ne sait pas trop qui est ce monsieur-là parce qu'il est arrivé un beau jour à l'hôtel, il s'y est installé. Elle sent bien qu'il y a eu des malheurs dans sa vie, qu'il y a eu des douleurs, mais il n'est pas causant. C'est un taiseux, Jean Robin. Et donc, on ne sait pas trop. Et donc, évidemment, le lecteur, au départ, ne sait presque rien. Alors, si le lecteur, et c'était aussi un pari du livre, si le lecteur a envie de savoir un peu plus qui est Jean Robin, c'est aussi une des amorces et une manière d'essayer de susciter l'intérêt du lecteur. Alors, on va en apprendre un petit peu, mais ça va être lent au début, parce qu'en plus, il arrive, il est dans le coma, donc il ne peut rien dire.
Dans le coma, puis après, pas de mémoire, pour une certaine période.
Et lorsque, voilà, et lorsque il retrouve la conscience, il y a 10 ans de sa vie qui sont effacés.
C'est ça, c'est dur ça.
Oui, et là, justement, il va falloir, il va essayer de retrouver ces dix années. Il va être aidé pour cela par Florence, la psychologue de l'établissement. Mais c'est un travail qui est long, qui est difficile. Et on va se rendre compte, du moins je l'espère, le lecteur va se rendre compte peu à peu que si c'est si difficile de retrouver sa mémoire, ce n'est pas simplement un problème physiologique ou un problème de dysfonctionnement physiologique. Il y a des résistances d'un autre ordre qui sont des résistances liées à l'inconscient et au surmoi. Et c'est cela que petit à petit on va trouver.
Oui. Alors Jean Robin, il a aussi un fils. Mais aussi un fils qui va faire une très courte apparition. Hein. Vous vous arrangez pour dire que il est très occupé, ce fils. Voilà. Il ne viendra même pas une seconde fois le voir. Et là aussi, on sent qu'avec cette approche du fils, que ça n'a pas été un père facile à vivre pour ce fils.
Voilà. Et je pense que le fils a évidemment beaucoup de... Comment dire je n'ose pas dire de rancœur, mais c'est difficile le rapport qu'il a avec son père, parce qu'il s'est senti abandonné à un moment donné. Les choses dont se souvient le fils, ce sont ces moments heureux qu'il partageait avec son père, lorsque son père notamment l'amenait au stade Gerland de Lyon pour aller voir l'Olympique Lyonnais. Et ça, c'est un des grands moments dont se souvient le fils. Et ces moments-là ont disparu. Et non seulement ils ont disparu dans la vie du fils, du fait de son absence de relation avec son père, mais ça a disparu aussi de la mémoire de Jean Robin. Donc il y a là des béances qui deviennent des béances inquiétantes, des béances troubles, des béances douloureuses.
Culpabilisantes aussi.
Alors, ce qui est à la trame et qu'on va voir se développer progressivement, c'est le sentiment de culpabilité. Ce qui est probablement à l'origine de ces résistances pour retrouver la mémoire, c'est la culpabilité. Car Jean finit même par se demander si ça ne serait pas mieux de ne pas retrouver ce qu'il était. Parce que va-t-il découvrir?
Et même
bon, c'est un thème connu, hein, Giraudoux.
Oui, mais vous savez, c'est toujours les mêmes thèmes dans la littérature. L'amour, les passions, la mort, Et il demande, même il regrette presque au tout début quand Florence le réveille, il dit mais vous n'auriez même pas dû me réveiller.
Oui. Voilà, parce que là c'est toute sa douleur. Alors, on ne comprend pas au départ.
Absolument, on ne comprend pas.
Pourquoi il dit ça. Alors, pour moi, si le lecteur se pose cette question, mais pourquoi il dit ça s'il y a un choc? Parce que moi, ce que j'aurais aimé traduire, hein, enfin, j'ai essayé d'aller dans ce sens-là, que le lecteur ressente qu'il y a quand même un blocage extrêmement fort, extrêmement violent, et de manière à ce que le lecteur se demande pourquoi, parce qu'enfin, il revient à la vie, il n'est pas handicapé, il a retrouvé quand même sa motricité, il a retrouvé la parole, etc. Pourquoi ce refus de vivre?
Absolument.
Et donc, à partir de là, si le lecteur se pose ces questions, évidemment, il va être désireux d'essayer de savoir ce qui se passe. Et là, à mon avis, si c'est réussi, ça doit remplacer les événements qu'on pourrait attendre dans un univers particulièrement romanesque.
Alors, voilà, nous l'avons vu, peu de personnages, peu d'histoires aussi. On est en train de s'en apercevoir tous les deux, une intrigue vraiment minimaliste. Hein. Alors, vous avez évoqué la difficulté peut-être pour le lecteur, la lectrice, de s'accrocher à ça, mais est-ce que c'est pas compliqué aussi pour un auteur de tenir sur... Combien fait-il ce livre? Près de 200 pages, 233 pages. De tenir finalement, pas son intrigue, parce qu'il y en a peu, mais en tout cas, son histoire sur 250 pages. C'est pas non plus...
C'est exact, c'est difficile parce que c'est un fil, c'est pas une corde, c'est un fil, fil ténu. Et si on tire un peu trop fort, il va se casser. Et puis, à un moment donné, comme quand on essaye de passer le fil dans le chat d'une aiguille, bah, il passe à côté. Donc, c'est assez difficile. C'est le pari que je me suis donné. J'ai été assailli de beaucoup de doutes pendant que j'écrivais, parce que à tout moment, on se demande est-ce que j'ai pas perdu le fil, justement.
Exact.
Est-ce que l'intérêt du lecteur peut être encore saisi, happé? Bon, et ça, pour l'auteur, il n'y a rien de plus délicat à savoir que cela, essayer d'imaginer si ça va accrocher ou pas, est-ce que ça marche, est-ce que le lecteur va être sensible à ça ou non, ça c'est la chose la plus difficile.
Oui, d'autant que là encore, on est dans un seul espace qui est la chambre, le bureau de Florence, juste à la fin, il y a d'autres lieux, mais c'est vraiment la fin du roman, presque la chute.
Hein. Oui, quand on sort de l'hôpital, on sort du livre presque.
Voilà, c'est ça. Donc, cette unité de lieu aussi fait que vous n'avez pas beaucoup d'espace.
et puis, que fait quelqu'un qui est dans sa chambre, qui a perdu la mémoire, qui au début a de la difficulté à se déplacer, qui n'a pas de motricité? Il n'y a pas grand-chose à raconter, a priori, sur les événements.
Voilà, et pourtant, ça fonctionne.
Bon, tant mieux, si ça, je le souhaitais, parce que... Mais en même temps, j'avais beaucoup de doutes. D'autant plus qu'il y a quand même une autre histoire. Alors, il n'y en a pas, mais en même temps, il y en a au minimum deux importantes.
Oui.
Il y a qu'est-ce qui fait que Jean Robin s'est refusé à revenir à la vie? Bon, ça, c'est le premier fil, la première question. Deuxième chose qui peut, à mon avis... susciter l'intérêt du lecteur, le happer, lui donner une raison de poursuivre, c'est le lien qui va s'établir avec Florence. Alors évidemment, on tombe dans le schéma, dans le modèle, dans le poncif du patient et du personnel soignant amoureux, etc. Oui, bon, c'est un poncif. J'ai essayé justement de le traiter autrement.
Bon.
Je ne sais pas si je suis parvenu, mais j'ai essayé de le traiter autrement.
Alors, vous me tendez la perche parce que justement, je voulais évoquer cette Florence. Et mais Florence, toutefois, elle ne se construit que dans la relation avec Jean. On ne sait rien d'elle.
Oui.
On ne sait pas si elle est seule, si elle a été divorcée, si elle a un compagnon, un mari qui sera un papa.
Si, c'est dit au début.
Au tout début.
Mais on ne fait pas attention à elle à ce début.
Voilà. Ah, autant pour moi.
Parce que c'est même précisé dès le début.
Dès le début.
Elle est chez elle. Elle a vu Jean. Quand il est arrivé, quand elle l'a vu rasé, transformé, et le lendemain, quand je la retrouve chez elle, elle est devant la glace, elle se prépare pour sa journée, et là elle fait attention, elle pense à se maquiller, regarde sa taille.
Est-ce que nous savons si elle a des enfants?
Et
non.
Non. Alors ça,
si
ça n'est pas dit.
Par contre,
elle parle de son mari qu'il a laissé tomber. Il y a 4 ans.
Oui, c'est ça. Mais alors vraiment, c'est très bref. Hein.
Voilà.
C'est une phrase.
Alors peut-être que j'ai peut-être pas suffisamment. Voilà. Pour moi, c'était...
Non, je ne demande pas que vous insistiez plus, mais c'est juste pour dire que pour moi, Florence, elle se construit, on la connaît. Pour nous, elle se construit dans la relation avec Jean. Elle tient un journal. On connaît à petit à petit.
Cela étant, c'était très important, pour moi, c'était très important d'indiquer qu'elle était seule et qu'il y a eu ce divorce avec son mari, parce qu'il y a une phrase qui est importante, elle rapporte ce que lui dit son mari. Son mari lui disait, tu es belle comme une poupée...
Exact, c'est vrai, je me souviens maintenant.
Barbie, mais tu es aussi froide qu'elle.
C'est ça. Oui, alors voilà, donc c'est vraiment... C'est minimaliste hein, pour poser la relation avec son mari.
Mais en même temps, je trouve que c'est une phrase qui, si on l'écoute toute seule, elle est épouvantable.
Enfin,
j'imagine une femme qui reçoit ça, c'est quand même dur.
Je suis d'accord.
Il me semble.
Je suis d'accord.
Ouais. Voilà. Et donc, du coup, ça a produit une sorte de blocage chez elle. En même temps, on peut s'interroger. Si elle est froide, si on en croit son ex-mari, si elle est froide, d'où vient cette froideur? Cette frigidité, peut-être.
C'est
je ne sais pas. On n'emploie pas le terme. Il est prononcé nulle part.
Nulle part.
Mais, femme froide, on comprend bien que c'est froide au lit. Dans ce cas-là.
Ouais.
Et... cette frigidité, d'où vient-elle? Est-ce que c'est simplement parce qu'elle n'aime pas assez son mari? Est-ce que c'est elle? Enfin là, je n'en dis rien, je laisse ouvert.
Absolument.
Mais au fur et à mesure, je crois que les choses peuvent se présenter parce que elle-même, en même temps que Jean essaye de se reconstruire, de se réapproprier, elle, et donc de lutter du même coup contre son sentiment de culpabilité, elle, du coup, va être à l'écoute, va être sensible à ce qui se passe, et ça va produire des choses en elle.
Absolument.
Parce qu'elle-même, elle est bloquée, on ne sait pas ce qu'il a bloqué.
On ne sait pas, voilà, c'est ça.
Et on ne le saura pas, mais on sent très bien qu'elle est bloquée, et que justement, elle a quelqu'un qui, petit à petit, essaye de se libérer de quelque chose, donc ça l'amène, elle aussi, à faire retour sur elle-même, ce qu'elle se refusait à faire.
Elle se
refusait à ce qui pourrait paraître surprenant pour...
Une psychologue. Oui.
Je ne suis pas si sûr que ça, que ce soit si surprenant. Enfin, je ne sais pas.
C'est comme les cordonniers, c'est
voilà.
ça
Voilà, peut-être. Ben, je ne suis pas psychologue, je pense qu'en disant ça, les psychologues vont réagir. Mais, donc, Elle se réserve pour l'écoute des autres.
Oui.
Et écouter les autres, ça lui évite de s'écouter elle.
Oui.
C'est avec cette idée-là que j'ai construit le personnage.
Absolument. Non, c'est exactement ce qu'on ressent. Mais quand même, je ferai un pas de plus parce que je trouve quand même qu'elle elle ne respecte pas tout à fait cette loi d'abstinence.
Ah bah non. C'est justement
des psychologues,
là.
Elle n'est pas psychanalyste,
elle
rentre beaucoup dans la relation avec Jean et je trouve qu'elle y est attachée plus que professionnellement. Après, on ne va pas dire ce qui se passe à la fin. D'ailleurs, vous laissez la fin complètement ouverte aussi. Donc, mais on se dit, elle est un peu influencée par ce Jean qui est un bel homme.
Une première image que j'ai essayé de placer dès le début du livre, c'est quand elle le découvre. Elle l'a vu quand il est arrivé.
Les cheveux longs, sales.
Et elle le retrouve le lendemain, complètement transformé.
Et
à ce moment-là, elle a une image, et c'est ce que je dis, elle se souvient, puisqu'elle a eu une époque, il y a quelques années, une activité d'archéologie amateur, et elle se souvient d'avoir dégagé de la gangue de terre sur un site archéologique, Volubilis pour ne pas le citer, elle se souvient d'avoir vu émerger petit à petit un buste d'Apollon. Et ce buste qui surgit peu à peu de sa gangue de terre est tout à fait pour elle fait écho à ce Jean Robin qui émerge de sa barbe et de ses cheveux. Et donc, immédiatement, il y a la beauté. C'est Apollon, c'est pas par hasard que j'avais choisi évidemment le buste d'Apollon. C'est Apollon, mais c'est en même temps une sorte d'apparition. Et une apparition... de l'analogie, une apparition de quelqu'un qui est encore mort, puisqu'au moment où il sort, il est dans le coma, comme le buste. Donc, elle retrouve à travers cela une émotion très forte qui avait été une émotion liée à l'archéologie, donc bien éloignée de la sexualité, apparemment. Mais justement, ça, on connaît tous les mauvais tours que l'inconscient peut jouer. Et donc là, précisément, c'est sans danger, puisqu'il s'agissait de l'archéologie, mais... le rapprochement, maintenant, s'est fait avec quelqu'un qui n'est pas simplement de pierre, qui est de chair, et qui, petit à petit, va revenir à la vie. Et donc, je crois que là, il y a eu un choc d'ordre amoureux, même si elle ne se l'avoue pas, si elle ne se le dit pas, et si personne ne le dit, pas même moi, pas même l'auteur.
Non, c'est vrai, vous êtes très prudent. Et ce qu'on sait aussi quand même de Florence, c'est que c'est une grande amatrice de photographie.
Oui, de photographie en relief.
En relief, exact. Voilà.
C'est très important parce que les deux personnages, et c'est aussi un des points communs, ce qui va les mettre en syntonisation. Voilà, je cherchais le terme, qui est un terme technique, en synchronisation, disons, ou en effet d'écho. Ce qui se passe chez l'un a un écho chez l'autre. Et ils ont des points communs. Jean Robin a un objet fétiche, sa boule à neige. D'autres diraient un objet transitionnel. Mais bon, on ne va pas utiliser le langage spécialisé. Donc la boule à neige, c'est sa boule à neige, c'est son univers, c'est son objet fétiche. Et elle en a un. C'est le stéréoscope.
Oui.
Ce stéréoscope qui est un appareil ancien, muni de deux œilletons, dans lequel on peut regarder des photos qui sont à l'intérieur du stéréoscope et qui produisent, quand on les regarde, un effet de relief. Donc chacun a son objet transitionnel. Et chacun a son monde. Mmh. Et il y a à la fois des analogies et des différences entre ces deux mondes. Parce que Jean Robin, quand il a la boule à neige dans les mains, il dit, si je l'agite, c'est moi qui suis maître de ce qui se passe. Je l'agite, il y a une tempête. Je la repose, c'est à nouveau le calme. C'est moi qui la maîtrise. Et elle, avec le stéréoscope, c'est un autre type de rapport. Elle fait revenir le temps passé, et les êtres chers en particulier, notamment son grand-père. Et avec l'effet très particulier de la stéréoscopie, de l'effet de relief, qui est différent de la 3D d'aujourd'hui. Même s'il s'agit d'effets de relief dans les deux cas, l'effet n'est pas le même. Une image stéréoscopique, une image photographique stéréoscopique, lorsqu'on la regarde à travers le stéréoscope, produit un effet assez extraordinaire qui est à la fois d'extrême présence et en même temps d'une présence presque morte. C'est ce qu'on appelle l'effet Grévin. C'est-à-dire comme si on avait des personnages en scie. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement présents, on les confond avec leur modèle, comme au musée Grévin, comme les figures de cire, et en même temps, c'est mort. Et là, c'est aussi tout ce rapport ambigu qu'elle entretient avec elle-même, avec la mort, avec l'amour, etc. Il me semblait là que c'était des objets qui, si on les prend en premier degré, sont des objets relativement anodins.
Encore que, le stéréoscope...
Oui, il est moins anodin aujourd'hui, ça c'est exact. Bon. Mais en même temps, sont des objets porteurs d'énormément de richesses, de significations et de symboles.
Alors, nous évoquions tout à l'heure l'absente Clara, qui est quand même présente, et c'est justement autour de Clara que vous avez choisi de lire un passage, et ça nous permettra aussi de voir les différents niveaux d'écriture que vous avez utilisés, dont on n'a pas parlé, et qui pourtant est vraiment bien présent dans votre récit.
Voilà, qui est bien présent, qui à la fois est un élément essentiel de la compréhension du texte, et en même temps une des difficultés pour le lecteur, parce que ça exige qu'il soit attentif, qu'il ne se perde pas dans les différentes typographies. Voilà, exactement.
Qui parle à quel moment ?
Alors effectivement, donc, depuis là, on est à la page 161, donc on est facilement dans le dernier tiers, au début du dernier tiers du livre. Et depuis quelques pages, le lecteur sait qu'il y a une femme qui court là en dessous, en filigrane, mais on n'arrive pas à la saisir. Parce que Jean Robin, lui, n'arrive pas à la retrouver. Il sait qu'elle est là, elle est comme un fantôme qui rôde.
Mais ça résiste.
Et il va finir par par savoir qui c'est. Et possiblement, ça va lui revenir. Et du coup, une des premières images qui va lui revenir, une première image consciente qu'il va avoir de Clara, c'est celle-ci. Dans la pénombre de la chambre, nuque inclinée vers l'arrière, les yeux clos, à peine si elle respirait, Clara. Amaigrie, pâle, le balancier de l'horloge comtoise allait et venait, son tic-tac plantait des aiguilles dans la moiteur de la pièce. Le calme du mal qui infuse en silence. De la rue est monté le timbre aigrelé d'une bicyclette. Il avait pensé au double tintement ovale et doré de la clochette de Combray, à la déception et à la tristesse du jeune Marcel dans son lit. Sa mère ne monterait plus pour le baiser du soir. La solitude de la nuit se refermerait. Il s'était assis près de l'alité, avait pris sa main diaphane, l'avait caressée, l'avait portée contre sa joue. « Clara, pardon, pardon Clara !» dans un souffle pour ne pas la réveiller. Les paupières fermées, elle n'avait pas bougé. Une légère pression des doigts. Tant de choses dans cette caresse. La force d'un amour dans l'exténuation. Le poids du vide s'approchait. Sur le guéridon, des boîtes de remèdes, des pansements, des flacons, une seringue.
Donc voilà, ça, ce sont André Gardy. Comment qualifier ça? Ce ne sont pas vraiment des pensées. C'est une description des pensées que Jean Robin a à ce moment-là dans son fauteuil d'hôpital. Comment? Parce que c'est pas vrai. Il peut pas se formuler ça d'une façon aussi littéraire. C'est vous, auteur, qui transposez finalement
voilà,
ces pensées.
Tout à fait.
Qui font ressurgir l'image de Clara, enfin.
Voilà, et j'ai essayé, justement, alors là, vous soulevez une question qui est essentielle, je crois, au niveau de l'écriture, c'est que j'ai, évidemment, si je supposais que j'étais en train de transcrire les pensées de Jean, ça n'a pas de sens.
On ne pense pas comme ça.
Et ce que j'ai voulu essayer de traduire, c'est... Il est en train de se remémorer ces images-là de Clara, et ce qu'il en ressort, c'est la douleur, la peine. On est à l'instant où elle va mourir, elle est sur le point de mourir. C'est ce moment où la vie est en train de s'échapper que j'ai essayé de traduire.
Oui, absolument. Et dans une écriture, on l'a entendu, hein, très littéraire, comme si vous, auteur, vous preniez la main sur les pensées sur la pensée imagée finalement de Jean, et que vous la transposiez dans ce style-là, et en évoquant évidemment, on l'a compris, Marcel Proust et son texte. Donc tout le temps, donc ces passages-là, on les retrouve d'une façon régulière dans le roman.
Oui, là vous évoquiez cela. Je crois que ça a été aussi une des difficultés du texte, un pari en même temps.
Oui.
Il y a plusieurs voies.
C'est ça.
Disons qu'il y a deux voies principales. Il y a la voie du narrateur qui parle de Jean, Robin. Et éventuellement de Florence et de Maria, etc.
C'est une espèce de vue.
Alors, qui n'est pas la vue omnisciente classique du roman réaliste.
Non plus.
On est proche des personnages. Mmh. On est dans le même espace que. Et on ne voit que quand on est dans la chambre avec Jean, on ne voit que Jean. Si on voit Maria, c'est parce qu'elle entre.
C'est ça.
Sinon, on la voit pas.
Non.
Et même, c'est presque la même chose pour Florence. Pas tout à fait. Parce qu'on va la trouver, elle, dans son bureau. Mais c'est pareil, quand on est dans le bureau avec Florence, on ne voit que Florence. Mmh. Donc ça, c'est tout à fait délibéré. Je suis à hauteur des personnages quand je suis narrateur. Donc ça, c'est une première voix, celle du narrateur. Il y en a une deuxième, c'est Florence, lorsqu'elle tient son journal. Son journal dont, au départ, ça devrait être un journal professionnel, un journal médical, de compte rendu.
Voilà, du progrès, de la santé du patient.
Mais on s'aperçoit petit à petit, alors là peut-être que le lecteur a du mal à admettre ça, mais on s'aperçoit petit à petit que ça glisse vers autre chose.
Je trouve.
Voilà.
Je trouve.
Ça serait intéressant, j'aimerais bien avoir votre réaction. Oui. Mais pour moi, c'est justement là que les choses se passent malgré elles.
Oui, bien sûr.
Ça gagne tout. Disons, cette remontée ce sentiment qu'elle est en train d'éprouver pour Jean, est en train de tout gagner, bien qu'elle s'en défende. Elle a mis suffisamment de parapets, de défense pour essayer de résister à ça, mais ça s'infiltre partout. Voilà, c'était pour ça que j'ai pris ce parti. Est-ce que c'est un bon parti? Est-ce qu'il aboutit? Je ne sais pas. En tous les cas, j'ai pris ce parti-là. Donc ça, c'est la deuxième voie. Et il y a une troisième voie qui est celle, j'allais dire, du passé, mais d'un passé incertain. Alors, même dans ce passé, il y a plusieurs voies, ou plusieurs couches, je ne sais pas. Il y en a une qui revient, qui court tout au long du livre, qui est... et c'est, alors ça, par contre, j'ai l'impression que ce n'est peut-être pas abouti, parce que j'ai rarement, dans les réactions de lecteurs que j'ai eues, presque personne ne m'a parlé de ça. Alors pour moi, ça me paraissait être un point important. Il y a la bicyclette qui est sur le trottoir, et ce sont des passages très brefs, de 3-4 lignes.
La bicyclette,
Où le personnage est dans un bistrot, et il y a une bicyclette qui est dehors, lui il est dans ce bistrot, il y a quelqu'un qui est dans ce bistrot, et on entend une locomotive, le sifflet d'une locomotive. Et ça revient régulièrement, avec des petites modifications à chaque fois. Chaque fois, il y a des modifications. Donc c'est un fil qui court comme ça et que l'on va retrouver à la fin. Mais je ne vais pas dire laquelle.
Oui, c'est comme une frise finalement.
Voilà, mais là, avec quelque chose d'un peu mystère. Pourquoi ça ? Moi, la question que j'aurais aimé que le lecteur se pose, c'est d'où ça sort et pourquoi qu'est-ce que ça veut faire ? Mais si on l'a mis là, c'est qu'il doit y avoir une raison. Laquelle ? Et chaque fois qu'on va le retrouver, essayer de voir, tiens, qu'est-ce qui est différent par rapport à ce que j'ai déjà lu ? Quels sont les éléments nouveaux ? Qu'est-ce qui revient ? Alors on s'aperçoit que ce qui revient, c'est la machine, le sifflet de la machine à vapeur. Voilà, ça revient constamment. Exact. Et c'est de plus en plus fort, de plus en plus important.
Exact.
Voilà. Bon. Donc ça, c'est sorte de fil qui est lié à un passé, mais complètement indéterminé, totalement indéterminé. Ensuite, il y a des passés beaucoup plus, un peu plus déterminés. Ce sont les passés ouvertement, renvoyant ouvertement au vécu de Jean. Par exemple, lorsqu'il est à l'école et qu'il écoute ses premiers rapports avec la musique classique. Lorsque le professeur a mis le disque en route et qu'il se replie sur lui-même. Ou bien les cours, le dessin, par exemple. Là, ce sont des... Ou bien encore, liés plus directement aux femmes, cette fois-ci, les souvenirs de sa rencontre avec Clara. Voilà, donc ça, c'est une autre couche. Et il y a toujours dans ces souvenirs, il y a aussi les souvenirs de Florence.
C'est ça.
Donc, c'est pour ça que c'est assez complexe.
Il faut pas être découragé parce que on s'y retrouve malgré tout. Là, voilà, on a la chance de vous entendre et de comprendre un petit peu. Voilà le principe de l'écriture et comment vous avez dû organiser tout ça. Mais on comprend très vite que qui parle, dans quel souvenir est-ce qu'on est, si ce sont ceux de Florence, si ce sont ceux de Jean, et où s'arrêtent ses souvenirs. Et on comprend bien son inquiétude à ne pas reconstituer ces 10 années d'absence totale, quoi, comme un grand vide. C'est accessible. Tout ça, c'est accessible.
Je suis un peu rassuré quand vous me dites cela. Non,
très
ce que
accessible.
Je voulais, effectivement, c'est que ça soit simple. Simplement, je ne donne pas les réponses tout de suite.
Non.
J'amorce, j'en rajoute, mais j'espère qu'à la fin, tout se remet en place.
Oui, le puzzle se reconstitue,
voilà.
Oui, bien
exactement.
Sûr.
Exactement. Alors, vous avez employé le... Merci pour le terme, parce que c'est bien comme cela que je le pensais. C'est un puzzle.
Ouais.
Il y a des pièces. Alors, pendant pas mal de temps, on ne sait pas où elles vont. On ne sait pas ce que... On ne voit pas le dessin.
Ouais.
Et puis, j'espère qu'à la fin, le dessin apparaît. Voilà.
Si, tout à fait. Le dessin apparaît bouilli très, très bien, André Gardy, pour les Lys Blancs de Clara. En tout cas, voilà. Je trouve que c'est très éclairant d'avoir ce commentaire de l'écrivain. On apprend encore beaucoup plus de choses. sur la construction romanesque. Et puis, nos auditeurs montpelliérains auront la chance de vous écouter à Saint-Aunès, au Centre Cultura de Saint-Aunès, qui est vraiment prévu pour accueillir des auteurs. Vous serez bien installés, les auditeurs aussi sont bien installés, pour vous entendre le samedi 29...
Non, 27.
Ah, voilà, 27 octobre. Je crois qu'il est bon de s'y rendre à partir de 10h, parce qu'il y a vraiment, une longue... comment dire, disponibilité des auteurs à l'égard des auditeurs.
Voilà, je pourrais bavarder avec les personnes qui le souhaiteront.
Ouais. Merci André Gardy,
merci Guylaine
pour
m'avoir reçu.
Avec plaisir, les Lys Blancs de Clara aux éditions Chum, près d'Avignon. À Avignon même. Au revoir.
Au revoir Guylaine.